Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand la majorité cherche à contredire les critiques de l'opposition sur la faiblesse du bilan de la Macronie, Emmanuel Macron a décidé de mobiliser aujourd'hui l'ensemble du gouvernement autour d'une série de réformes qui, malgré le poids écrasant de la crise du Covid, doivent marquer la dernière année que le chef de l'État veut utile avant la présidentielle de 2022.
Et puis, un peu plus tôt, ce sera tenu dans la matinée un conseil de défense suivi d'un conseil des ministres.
Et un conseil au cours duquel a notamment été présenté le projet de loi destiné à repousser la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
L'actualité à l'étranger dans votre journal également, avec tout d'abord le plus grand procès anti-mafia depuis plus de 30 ans qui s'est ouvert ce matin en Italie.
Nous irons par ailleurs en Centrafrique où les rebelles à l'offensive contre le régime du président réélu ont mené pour la première fois aujourd'hui deux attaques aux portes de la capitale.
Enfin accusé par les démocrates d'avoir incité à l'insurrection, c'est un Donald Trump combatif qui affrontera aujourd'hui un deuxième procès ou une deuxième procédure historique d'impeachment.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, dans une vingtaine de minutes, François Durper, historien des États-Unis. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La société de vigilance, est-ce qu'on est déjà un tout petit peu un pied dedans? On en parlera avec notre invitée, la politiste Vanessa Codaccioni. Elle signe un livre à ce sujet, La société de vigilance chez Textuel. Et on y revient donc dans une vingtaine de minutes.
Alors qu'un conseil de défense sanitaire se tenait ce matin sans pour autant qu'aucune décision ne soit annoncée officiellement, ainsi que le veut la règle, nécessairement les spéculations vont à nouveau bon train. Le gouvernement va-t-il décider de nouvelles mesures pour contenir la hausse des contaminations en France et affronter notamment sa variante la plus contagieuse? Tout juste connaît-on les recommandations adressées hier soir au gouvernement par le conseil scientifique et en particulier celle de ne pas fermer les écoles. Par ailleurs, son président Jean-François Delfraissy estime que les choses iront mieux au printemps, dit-il, et devrait s'améliorer réellement à la fin de l'été. Or, voilà que ce matin, en Conseil des ministres, cette fois-ci, un projet de loi a été présenté pour repousser la sortie de l'état d'urgence sanitaire du 16 février jusqu'en juin prochain. Alors, rappelons que cet état d'exception permet de faire face à la crise en autorisant le gouvernement à prendre des mesures de restriction des libertés, comme par exemple le confinement ou le port du masque obligatoire. Seulement, voilà, compte tenu des dernières projections du Conseil scientifique, si cette prolongation pouvait apparaître justifiée pour quelques semaines supplémentaires, en revanche, pour plusieurs mois encore, il semble que cela soit nettement plus contestable. Mais comme au lendemain d'ailleurs des attentats terroristes de 2015, eh bien, on a le sentiment que le pouvoir exécutif a décidément beaucoup de mal à renoncer à cet état d'exception, ainsi que l'analyse le politologue Benjamin Morel, professeur de droit public à l'Université Paris de Panthéon, Assas, joint au téléphone par Stéphane Robert.
De facto, un état d'exception donne aux gouvernants les moyens d'action qu'ils n'ont pas en temps normal. Donc là, vous avez en tant que gouvernant des instruments, des leviers qui évidemment, auxquels il est assez difficile de renoncer. Ensuite, on a une situation particulière, que ce soit avec le terrorisme ou la menace sanitaire, qui fait qu'on est face à des menaces qui sont des menaces latentes et qui ne sont pas des menaces que vous pouvez, à moyen terme, totalement supprimer. Donc à partir de là, pour les gouvernants, eh bien, conserver ces états d'urgence, c'est à la fois disposer d'instruments qui, même s'ils ne se justifient pas au vu de l'ampleur de la menace à un instant T, eh bien, peuvent malgré tout servir à mieux la juguler. Et ensuite, ça leur permet de donner un gage, une marque à l'opinion, en expliquant qu'ils prennent le problème sérieux. Et si jamais demain un attentat se produit, si jamais demain vous aviez une quatrième vague, expliquer que pour le coup, eh bien, ce n'est pas à cause d'un relâchement de l'attention du gouvernement. Donc pour ces raisons-là, dès le moment où vous entrez dans un état d'urgence, il est toujours extrêmement complexe, extrêmement difficile d'en sortir.
Benjamin Morel, professeur de droit public, il répondait à Stéphane Robert et je précise que ce projet de prolongation donc de l'état d'urgence sanitaire sera examiné lundi prochain à l'Assemblée nationale et la semaine suivante au Sénat. J'évoquais en début de ce journal les recommandations distillées ce matin par le professeur Jean-François Delfraissy. Parmi celles-ci, et face à la multiplication des variants, il juge opportun de restreindre de façon drastique nos relations avec La Réunion et Mayotte, en raison de leur lien avec l'Afrique du Sud, où vous le savez, un variant assez proche du virus anglais, avec lui aussi des mutations, a été détecté. Bénédicte Robin, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Et c'est ainsi par exemple que le test PCR est désormais obligatoire, Bénédicte, pour tous les voyageurs arrivant à Mayotte ou quittant le 101e département français.
Oui, la nouveauté, c'est le test pour quitter l'île, mesure de précaution, car il y a bien une augmentation du nombre des cas depuis le début de l'année à Mayotte. 230 cas pour la première semaine de janvier. La moyenne était autour de 150 depuis le mois de novembre, mais pas plus d'hospitalisation. Quant aux variants sud-africains, on ne sait pas encore s'ils circulent ou pas. Une trentaine de tests ont été envoyés à Paris pour le savoir. Les résultats sont attendus en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Mais clairement, il y a une inquiétude car si les tests sont obligatoires pour arriver à Mayotte depuis plusieurs mois, ils ne sont évidemment pas pratiqués sur les migrants arrivant clandestinement des Comores, parfois en provenance d'Afrique continentale. Et ils continueraient bien à affluer d'après Tani Mohamed Swalihi, sénateur La République En Marche de Mayotte, qui appelle à davantage de moyens plutôt que de restreindre, comme l'a dit Jean-François Delfrécy, les relations entre la métropole et l'île.
Je le prends très mal parce que ce sont des territoires français. Moi, je n'emploierai pas ce terme de restreindre. Au contraire, il faut trouver d'autres façons plus sécures de maintenir les relations entre le pays et ses territoires éloignés. Moi, l'expression m'inquiète plus qu'une restriction, c'est plutôt la recherche de solutions de surveillance et de protection des populations françaises de ces territoires.
La campagne de vaccination pourrait aussi être plus intense, estime l'élu. Les premières doses arriveront en fin de semaine prochaine, 975 doses pour ce premier envoi. La directrice de l'Agence régionale de santé, Dominique Voinet, ne cache pas non plus sa déception face à un chiffre si faible pour un territoire où la population est certes jeune, mais où parmi les quelques 250 000 habitants, beaucoup de patients souffre de maladies chroniques.
Merci Bénédicte Robin. Le gouvernement en séminaire aujourd'hui, où quand Emmanuel Macron choisit de réunir l'ensemble de ses ministres et secrétaires d'État pour dresser quelques perspectives d'avenir. En clair, après que la crise sanitaire aura totalement bouleversé le cap que s'était fixé le président, comprenez, transformer le pays, eh bien à l'approche de la prochaine présidentielle, il semble que pour l'exécutif, le temps soit désormais venu de relancer la machine à réformer. Sans compter, Rosalie Lafarge, que pour cela, Emmanuel Macron ne devrait pas avoir trop d'efforts à faire pour mobiliser ses troupes, notamment à l'Assemblée, où il peut compter sur la majorité.
Pour les députés de la majorité, les quelques jours en circonscription ont été visiblement marqués par la critique envers la stratégie vaccinale notamment, et ils sont impatients d'offrir un autre visage.
C'est une volonté de repartir dans une dynamique de transformation.
Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône.
Parce qu'il y a une bande passante politique qui effectivement a une tendance à être saturée par l'angoisse autour du vaccin. Mais si on n'ouvre pas, si on n'élargit pas le débat, on va mourir guéri en tant que société. C'est-à-dire que la France sera sortie du virus, mais dans un tel état de délabrement qu'on n'arrivera pas à se relever. Et ça serait le pire.
Il faut avancer et surtout montrer qu'on avance, insiste le marcheur de la Vienne, Sacha Houlier.
Nous ne sommes pas dans un calcul électoral, nous. Donc ce que nous voulons, c'est sortir de la crise, en sortir vite, en sortir bien, poursuivre les réformes. Il y a toujours eu en filigrane la poursuite des réformes. Maintenant, il faut que ça se voie. Il faut que ça se concrétise et c'est le but de ces prochains mois.
Et pour cela, la majorité compte sur plusieurs grands chantiers, résume le porte-parole des députés LREM à l'Assemblée, Pierre-Alexandre Anglade.
Le régalien, l'écologie, l'égalité des chances, le plan de relance, ça ce sont des objets extrêmement concrets qui vont rythmer les 6 mois à venir. Et on ne va pas renoncer à 18 mois de la fin du quinquennat, c'est une évidence.
Ne pas renoncer pour avoir des résultats concrets à présenter aux Français et pas uniquement une gestion de crise qui, même si elle trouve aujourd'hui ses défenseurs, est très loin de faire l'unanimité.
La Banque de France a publié ce matin les chiffres du mois de novembre pour les défaillances d'entreprises. 32 000 ont fait faillite contre 51 000 à la même période l'année précédente. C'est une baisse de 36% et en pleine crise économique, c'est évidemment le paradoxe du moment qui s'explique en l'occurrence par le soutien de l'État, mais un soutien qui pourrait se révéler à double tranchant, comme l'explique Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires, joint au téléphone par Marie Vienno.
Les entreprises ont des difficultés. La seule chose, c'est qu'il y a toutes ces mesures gouvernementales depuis le premier confinement du mois de mars qui sont tellement puissantes qu'on a un certain nombre d'entreprises, et pour beaucoup d'entre elles, qui se sont endormies, qui sont une espèce de léthargie qui est maintenue effectivement par ces mesures gouvernementales et qu'il va falloir réveiller. En 2020, ces procédures sont essentiellement des liquidations judiciaires et 80% d'entre elles sont des dossiers dits impécunieux, c'est-à-dire il n'y a aucun actif dans ces dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était déjà des entreprises qui étaient en très grande difficulté, mais surtout qui n'avaient quasiment plus d'activité. Toutes les autres sont maintenues, soutenues en chômage partiel par les mesures gouvernementales.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que dans les faillites de 2020, on n'a pas vraiment de faillites liées au Covid.
Exactement, on a très peu de faillites liées au Covid, puisque si les difficultés sont là, ils n'ont pas franchi la porte du tribunal, ils attendent. Et la réalité du terrain que nous avons au quotidien, c'est que beaucoup trop d'entreprises qui viennent nous voir arrivent bien trop tard.
On a Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires. Il répondait à Marie Viennot. Carrefour, premier employeur privé en France, va-t-il être racheté par un distributeur canadien? Le groupe Alimentation Couche-Tard, un géant déjà actif en Scandinavie, en Irlande, mais aussi en Pologne, dans les Pays-Baltes ou bien encore en Russie, a annoncé avoir engagé des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle acquisition du groupe français.
Midi 41 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Certains l'appellent déjà le procès de la décennie, jamais depuis 30 ans, et le maxi-procès de Palerme contre Cosa Nostra. L'Italie n'avait vu une telle démonstration de force. À partir d'aujourd'hui, des centaines de membres présumés de la redoutée Grande Greta Calabrese, la plus puissante aujourd'hui des organisations criminelles italiennes, dont les tentacules couvrent le monde entier, vont être jugés dans le cadre d'un procès historique qui devrait durer plus de 2 ans. Au total, 900 témoins, 58 repentis, 400 avocats et surtout 355 accusés, parmi lesquels des dirigeants politiques, des fonctionnaires, mais aussi des policiers ou bien encore des hommes d'affaires, seront entendus dans une enceinte agencée spécialement pour accueillir donc ce procès hors norme au cœur de la Calabre, actuellement la plus pauvre des régions de la péninsule gangrénée par la mafia. C'est une correspondance signée Bruce de Galzin.
913 témoins, 438 chefs d'accusation, 355 accusés dans une salle d'audience de 3300 mètres carrés et un procès qui devrait durer des années. Pour la première fois, le fonctionnement et les liens de l'Andrangheta avec les milieux économiques, mais aussi politiques, judiciaires, policiers et francs-maçons seront décryptés. D'abord dans sa Calabre natale, où elle est profondément enracinée. Il y a un an, plusieurs boss sont arrêtés, la population descend dans la rue pour applaudir les carabiniers, et petit à petit, très lentement, les commerçants, les Calabrais commencent à parler. Mais l'Andrangheta est aussi une organisation criminelle mondiale qui vit du trafic de cocaïne sur les 5 continents. Le coup de filet d'il y a un an a ciblé l'Italie, mais aussi l'Allemagne, la Suisse, la Bulgarie. L'Andrangheta, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires chaque année, selon le procureur qui a mené l'enquête, Nicolas Gratteri.
Toujours en Italie, le gouvernement a adopté tôt ce matin un plan de relance de près de 223 milliards d'euros, le plus grand jamais engagé dans le pays. C'est aussitôt félicité le ministre de l'économie avec pour objectif, bien entendu, de remettre à flot une économie mise à mal par la pandémie de coronavirus. Une bonne nouvelle a priori, sauf que déjà la crise politique rôde en raison d'un désaccord sur l'utilisation des fonds européens, de sorte que ce plan d'investissement qui doit encore passer au Parlement pourrait bien sonner le glas de l'alliance gouvernementale entre les partis de centre-gauche d'un côté et le mouvement anti-système 5 étoiles de l'autre. Enfin, en l'absence d'amélioration au niveau des contaminations, l'état d'urgence qui devait expirer à la fin du mois va être prolongé jusque fin avril. L'Allemagne confirme ce matin qu'elle ne pourra pas lever début février toutes les restrictions mises en place pour tenter d'enrayer l'épidémie. Les contacts devront être limités pendant encore 2 ou 3 mois. Hier déjà, la presse avait révélé certaines confidences de la chancelière, laquelle s'attendrait à ce que le confinement en vigueur soit maintenu jusqu'en avril prochain. Le Japon, relativement épargné jusqu'ici par la pandémie, subit lui depuis novembre dernier une troisième vague, bien plus importante que les deux premières, menaçant désormais de saturer ses hôpitaux. Et c'est ainsi que les autorités ont décidé aujourd'hui d'étendre l'état d'urgence déjà en place sur Tokyo et sa grande banlieue à 7 départements supplémentaires. En Corée du Sud voisine, le leader d'une puissante secte, la très polémique église Shincheonji de Jésus, a été déclaré innocent aujourd'hui. À 89 ans, Lee Man-hee était poursuivi pour sa responsabilité dans l'arrivée du virus en février dernier. Un verdict qui risque de susciter l'émoi dans un pays où la lutte contre le virus passe avant la vie privée. C'est une correspondance à Séoul signée Nicolas Roca.
C'est une décision judiciaire qui devrait déplaire à de nombreux Sud-Coréens. Ils sont 1,3 million à avoir signé une pétition demandant à ce que soit dissoute l'église Shincheonji de Jésus. Mi-février, après que les premiers cas au sein de la secte apparaissent dans la ville de Daegu, ils représentent près de la moitié du total des infections confirmées du pays. Lorsque les autorités demandent aux responsables de la secte de transmettre aux équipes de traçage des cas contacts une liste des 250 000 membres, l'église affirme officiellement qu'elle coopère, mais Lee Man-hee, le leader du mouvement religieux, a été accusé d'avoir fourni de faux registres de ses fidèles et pire, de les avoir incités à ne pas révéler des informations aux autorités sanitaires afin de protéger leur vie privée. La poursuite des rassemblements religieux n'a pas aidé à limiter la diffusion du virus et à améliorer l'image de l'Église dans le pays. Plus de 5000 infections sont liées aujourd'hui à la secte, soit près de 7% du total des cas du pays, qui en compte près de 70 000. Ces événements ont mis en lumière les pratiques de cette secte opaque, dont le leader a donc été acquitté pour le chef d'accusation d'entrave de lutte contre le virus, mais qui sera aussi poursuivi pour détournement de fonds. Les agissements de ces groupes religieux n'ont pas fini de faire parler en Corée du Sud. Depuis quelques jours, une nouvelle secte, Back to Jérusalem, est accusée d'être responsable de près de 600 infections et de ne pas coopérer avec les autorités sanitaires.
Direction les États-Unis à présent avec le lancement inédit aujourd'hui d'une deuxième procédure de destitution contre le président sortant Donald Trump après que son colistier Mike Pence a refusé hier d'utiliser le 25e amendement de la Constitution. Et pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction, François Durper, historien des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on le sait, cette deuxième donc tentative d'impeachment a peu de chances en réalité d'aboutir, puisque si les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants prendront également le contrôle du Sénat le 20 janvier, pour autant, ils auront besoin du ralliement de très nombreux républicains pour atteindre la majorité des deux tiers du Congrès, nécessaire donc à la condamnation de Trump. Or, même s'ils ont déjà reçu l'accolade de plusieurs membres des républicains, ça ne devrait a priori pas être suffisant.
Alors plus exactement, l'impeachment, lui, semble presque certain, puisque les démocrates ont la majorité à la Chambre des représentants, mais effectivement, il ne faut pas confondre impeachment et le fait d'être démis de ses fonctions, puisque le procès a lieu au Sénat. Alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la charge est la plus grave jamais portée contre un président des États-Unis. Cette incitation volontaire à l'insurrection. Deuxième chose qui est importante à dire, le lieu où va se produire le vote d'impeachment, eh bien c'est exactement le même lieu que vous avez vu sur les images il y a quelques jours, le 6 janvier, là où des officiers en armes à feu ont été obligés de protéger les législateurs. Et puis pour répondre très immédiatement à votre question, ça va être bipartisan le vote, puisque déjà des représentants républicains, on pense beaucoup à Liz Cheney notamment, qui est représentante du Wyoming, eh bien vont voter du côté des démocrates, au moins 12 républicains. Liz Cheney a dit... jamais il n'y a eu plus grande trahison à son serment que ce qu'a fait Donald Trump. Ça sera donc le premier président à être impeaché deux fois dans l'histoire du pays.
De son côté, le président de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, aurait dit à ses proches qu'il voyait d'un bon œil en réalité la mise en accusation initiée par les démocrates, jugeant que cela aiderait peut-être son parti à tourner définitivement la page Trump. Est-ce que les républicains ne risquent pas de manquer là l'occasion d'entrer au fond dans l'histoire en se désolidarisant d'un homme qui aura mis l'avenir démocratique du pays en danger ?
Oui, vous avez raison, Mitch McConnell en privé dit tout le mal qu'il pense de Donald Trump. Kevin McCarthy, qui lui est le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, qui est un proche de Donald Trump, lui aussi se désolidarise pour l'instant en privé. Alors, c'est très important ce qui se passe à la Chambre. Et c'est très important ce qui se passe au Sénat. Il faut dire un petit mot sur l'accusation criminelle, qui est peut-être la chose la plus grave pour Donald Trump. Vous savez que d'après le code fédéral américain, eh bien, vous pouvez être en infraction si vous persuadez quelqu'un de commettre un crime. Là, il s'agit d'une foule de plusieurs milliers de personnes. Donc si l'enquête fédérale détermine que les responsables de la mort, notamment de l'officier de police Brian Sicknick, ont été incités à la violence par le discours de Donald Trump, Save America, eh bien, on pourrait s'acheminer vers une mise en examen de Donald Trump. Je vous rappelle les derniers mots du discours de Donald Trump. Allons au Capitole, montrons que nous avons l'audace de reprendre notre pays.
François Durper, certains font déjà remarquer que ce procès risque d'entraver l'action législative des démocrates au début de la présidence Biden. D'autres pointent que les troubles, voire la violence, risquent de recommencer. Diriez-vous qu'il y a davantage d'arguments aujourd'hui en défaveur de cette destitution ? En clair, qu'il serait plus simple de laisser Donald Trump quitter ses fonctions le 20 janvier.
Les démocrates sont déterminés à aller jusqu'au bout et je pense qu'il faut, à côté du bilan politique de ce qui s'est passé la semaine dernière au Capitole, faire le bilan émotionnel dont on a peu parlé finalement. Les législateurs américains ont véritablement eu peur pour leur vie. On sait que Nancy Pelosi, la chef de la Chambre, eh bien, elle a même incité ses collègues députés, républicains comme démocrates, à avoir un suivi psychologique qu'elle a cherché à mettre en place. Et les démocrates l'ont dit, même si c'est le dernier jour de mandat, il faut lancer ce message au monde que la démocratie est toujours bien présente et sortir renforcée de toute cette affaire.
On sait que de nouvelles manifestations des partisans de Donald Trump sont prévues ce week-end dans plusieurs États, ainsi que le jour même de l'investiture de Joe Biden. Hier, les troupes de la garde nationale ont d'ailleurs commencé à porter des armes dans les rues de Washington. Comment qualifieriez-vous le risque de voir s'instaurer potentiellement un climat de guerre civile ?
Alors, Laurie, ce n'est pas moi qui vais le qualifier, mais c'est le FBI. Deux choses. La première chose, on a appris dans les dernières heures que le FBI savait, notamment l'antenne du FBI de Virginie, qui allait se produire au Capitole. Il avait alerté une semaine avant. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Deuxième chose, effectivement, on prend très au sérieux la menace à partir des quelques heures qui vont précéder l'investiture de Joe Biden, non seulement à Washington, mais dans 50 capitales des États américains. Et puis, il y a un autre rapport du FBI qui fait référence à l'inquiétude dans l'armée. Vous savez que la jeune femme tuée au Capitole, qui essayait de rentrer dans le Capitole, c'était une ancienne membre des forces armées. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas l'exception. On a vu d'ailleurs dans la manifestation un ancien officier supérieur à la retraite de l'armée de l'air. Et il y a une progression de ces groupes suprémacistes blancs à l'intérieur de l'armée américaine qui préoccupe beaucoup la nouvelle administration démocrate. D'ailleurs, il se dit que Joe Biden va nommer comme secrétaire à la défense, c'est un pied de nez à cette évolution, un afro-américain, il s'agirait de Lloyd Austin.
Merci François Durper, historien des États-Unis, d'avoir répondu à notre invitation. Alors on l'a dit, malgré son assurance affichée, le soutien de certains élus très loyaux, Donald Trump est aujourd'hui plus isolé que jamais, notamment après une série de démissions dans son gouvernement. On se souvient que la semaine dernière, Twitter avait fermé définitivement son compte. Et puis hier soir, c'était au tour de YouTube de suspendre temporairement, cette fois-ci, la chaîne du milliardaire pour violation de ses conditions d'utilisation en raison d'incitation à la violence, voilà qui devrait à nouveau nourrir donc le débat sur le droit des entreprises de réseaux sociaux de réduire Donald Trump au silence. S'agissant de Facebook, cette fois-ci l'immixtion de l'entreprise américaine en Ouganda a fait bondir les responsables du parti au pouvoir à la veille de la présidentielle. Les comptes de plusieurs proches du président sortant au pouvoir depuis 35 ans ont en effet été fermés par le géant américain, avec le risque d'alimenter les soupçons entretenus par le pouvoir qui depuis des mois accuse leur principal opposant, Bobby Wine, d'être soutenu par des forces étrangères, sans jamais d'ailleurs préciser lesquelles. En Centrafrique, les rebelles qui mènent une offensive contre le régime du président sortant, fraîchement déclaré réélu, ont mené deux attaques simultanées ce matin à l'entrée de Bangui. Rappelons que des pans entiers du pays ravagés par 8 années de guerre civile continuent d'être contrôlés par des groupes armés profitant de ces richesses minières. Toujours est-il que c'est la première fois donc qu'une coalition de groupes armés s'attaque ainsi à la capitale. Les précisions sur place de Charlotte Cosset.
Les combats ont débuté ce matin. Vers 6h, des hommes armés ont attaqué l'entrée nord de la capitale Bangui à 12 km du centre-ville. Dans le même temps, c'est l'ouest de la capitale qui a aussi été visé par les attaques, mais les groupes armés ont semble-t-il été repoussés. Des opérations de ratissage aux abords de Bangui étaient menées dans la matinée. Il est difficile à ce stade d'évaluer précisément la situation ni l'état des forces en présence sur le terrain. Le Premier ministre Firmin Grébada a très vite pris la parole ce matin. Il a déclaré sur son compte Facebook que les assaillants sont venus en effectif élevé pour prendre Bangui. Des images circulent déjà d'hommes armés à terre. Selon des sources humanitaires, des blessés ont été reçus à l'hôpital communautaire. Ils sont en train d'être soignés, mais leur nombre n'est pas encore connu. La Centrafrique fait l'objet d'attaques répétées par une coalition d'hommes armés formée à la mi-décembre. Leur objectif premier, empêcher le processus électoral en cours. Ils ne cachent pas leur volonté de renverser le pouvoir en place s'ils le peuvent.
Et je précise que le Conseil de sécurité de l'ONU a lui prévu deux réunions, dont la première aujourd'hui, qui devra permettre d'évoquer non seulement l'embargo sur les armes en Centrafrique, mais aussi la présence de troupes étrangères et de mercenaires. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi pluvieux de la Haute-Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est, ainsi que du centre au nord de l'Auvergne jusqu'à Rhône-Alpes. De nouvelles chutes de neige importantes sont attendues dans les Alpes du Nord. Le département de Haute-Savoie notamment reste placé en vigilance orange, neige, verglas. Partout ailleurs, le ciel sera le plus souvent couvert avec quelques éclaircies. En revanche, le soleil restera bien présent sur le pourtour méditerranéen. Quant aux températures, elles afficheront entre 3 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. Contre la COVID-19.